Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et comme vous le savez, on vous attend pour lire vos réactions sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour co-animer cette émission, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Damien Potvin, président de JPA Group. Bonjour Damien.
Bonjour Pauline.
Alors ensemble, nous recevons Charlotte Journobord, CEO de Wishibam. Bonjour Charlotte.
Bonjour Pauline.
Alors Charlotte, vous avez fait une classe préparatoire, puis une école de commerce à Lyon. Vous intégrez très vite le cabinet de conseil Adkerney et à ce moment-là, vous travaillez sur une problématique qui vous anime encore aujourd'hui. Comment rendre rentable le e-commerce? C'est un peu les débuts de Wishibam, je crois, en fait.
Exactement. En fait, moi, je viens d'une famille de commerçants. Donc, mes grands-parents avaient des magasins. Mon père a eu des magasins, des franchises. Après, il a fait des centres commerciaux. Et mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. Et donc, je passais mes week-ends avec mon père à être dans ces magasins, quoi. Mmh. Donc, je connaissais très, très bien le retail. Il se trouve qu'en école de commerce, j'ai fait l'EM Lyon. Et à l'EM Lyon, on nous disait, ouais, le truc le plus sexy du moment, c'était de faire du conseil en stratégie. Et on nous avait dit, non, mais en fait, comme t'es pas dans les... Enfin, on n'est pas une top 3, donc on n'est pas HEC, DESEC, le SCP. Mmh. Donc, pour l'EM Lyon, c'est très, 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 très dur de rentrer en cabinet de conseil. Donc, du coup, moi, évidemment, je me suis dit, bah, si c'est très, 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 très dur, c'est vraiment ce que je veux faire. Et donc voilà, et j'ai postulé, j'ai été prise chez Adkerney. Et un peu par hasard, parce que les missions, elles sont données en réalité par hasard au départ. J'ai travaillé pour des gros distributeurs sur des problématiques qui sont toujours d'actualité en réalité aujourd'hui. On a eu des problématiques de comment calculer l'impact du catalogue papier. C'est intéressant parce que 10 ans après, 15 ans après, maintenant le catalogue papier disparaît. Et cette problématique-là de comment je fais pour rendre rentable mon e-commerce. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, de par mon expérience, j'avais le sentiment que on demandait à des retailers, qu'ils soient petits, qu'ils soient gros, qu'ils soient moyens, mais globalement à des gens qui faisaient leur métier d'une certaine façon avec beaucoup de personnes sur le terrain, de changer toutes leurs habitudes pour entrer dans un nouveau moule qui était celui du e-commerce parce que ça devenait has-been d'avoir des magasins, même si moi, je crois beaucoup au retail et on se rend compte à quel point les magasins, justement, c'est fort. Mais à l'époque, c'était Internet, Internet, Internet. Et donc, c'était très, très compliqué parce que il y avait tout un agrégat de solutions qui faisaient tous des bouts de choses. Et donc, il y avait des problèmes d'interopérabilité. Dans les magasins, c'était très difficile de prise en main, etc. Et il me semblait que c'était pas forcément la bonne approche parce que quand t'arrivais et que tu voulais mettre en place quelque chose, c'était très compliqué d'aller expliquer à des gens qui n'avaient pas changé leurs habitudes pendant très longtemps qu'il fallait tout changer.
Alors aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, Wishibam fait le lien justement entre le commerce en ligne et le commerce physique en construisant des nouveaux canaux de vente. C'est justement cet aspect multicanal qui fait un peu votre force aujourd'hui, qu'on comprenne bien la spécificité.
En fait, on fait plutôt de l'omnicanal.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, notre métier, c'est de créer le miroir digital des magasins, des réseaux de franchise, des centres commerciaux. Dans nos clients, on a des centres commerciaux, des outlets, des très gros franchisés comme Intersport Leclerc, on a le BHV, etc. Et en fait, nous, ce qu'on sait très bien faire, c'est leur permettre de vendre en ligne les produits qui sont disponibles dans leur magasin, quel que soit leur nombre de magasins, de proposer au consommateur final de faire du click and collect, de la livraison, du point retrait, enfin tout ce qu'ils veulent, d'orchestrer la logistique depuis les points de vente physiques et ou depuis les entrepôts, d'analyser bien la donnée pour faire en sorte que les bons stocks soient aux bons endroits. Enfin, en fait, tout ça, ça paraît assez simple, mais c'est assez complexe.
Ouais, on imagine bien, on imagine bien.
Et voilà, et nous, la différence par rapport aux solutions qui existaient, c'est que on considère que le e-commerce, ça doit vraiment refléter les points de vente physiques. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de se rendre dans un magasin et de se rendre compte que ce qu'on a vu sur le site internet, ce n'est pas disponible. Mm-hmm. Et donc, on l'a construit vraiment comme ça. C'est-à-dire, comment on fait pour que le e-commerce permette de supprimer les pain points magasins pour que l'expérience en magasin soit exceptionnelle.
D'accord. Wishiba, mais ce produit-là a été lancé en 2018. Vous êtes environ 40 collaborateurs, hein, il me semble, et présent dans 8 pays, France, UK, Espagne, Pays-Bas, Norvège, Italie. Est-ce qu'il y a une annonce à faire, un nouveau pays à...
Non. Là, pour l'instant, on est... Donc, en fait, nous, on a grossi globalement assez bien, assez vite. On a toujours... était rentable. Donc là, dans un contexte économique qui est quand même un peu compliqué, on se concentre vraiment sur faire en sorte d'avoir des coûts maîtrisés. Et donc, on ne se lance pas dans des acquisitions de nouveaux marchés trop forts. En revanche, on a des clients qui sont présents à l'étranger. Et donc, en réalité, quand on ouvre des pays, en général, on les ouvre avec des clients déjà là-bas et après, on grossit nos clients là-bas.
Guillaume de Dozinel, pour vous interroger également aujourd'hui.
Alors, Charlotte, vous avez réussi à convaincre des acteurs du retail d'adopter une démarche digitale innovante. Quel a été le moment clé où vous avez su que Wishiba était en train de réellement transformer l'industrie ?
Franchement, nous, on a eu... donc, quand on a lancé la boîte, l'idée de base, c'était de se dire, en fait, un centre commercial, c'est une marketplace physique. Et donc, du coup, nous, on va créer le miroir digital et on va faire la marketplace en ligne. En plus, la marketplace, c'était hyper à la mode, hyper trendy. Ils levaient tous beaucoup d'argent et tout. Donc, ça me semblait vraiment tout à fait pertinent. Et en fait, en me renseignant quand même dans l'industrie, tous les acteurs que j'avais rencontrés m'avaient dit « Non, mais nous, en fait, on a investi des millions d'euros, on voulait vraiment faire ça, on n'y arrive pas, etc. » Donc, on a commencé à développer un produit ultra complet, justement, parce que pour être capable d'aller digitaliser un centre commercial ou un outlet, déjà, la première chose, c'est qu'il faut être capable d'aller s'intégrer avec des systèmes d'information qui sont tous différents, d'enseignes qui sont toutes plus ou moins grosses, avec toutes des maturités digitales différentes. Mmh. Et il faut récupérer leurs informations produits, mais aussi leur niveau de stock, etc. Donc, et comme on avait commencé par l'outlet, qui n'est pas le cas le plus facile, souvent, ce n'était pas au même endroit. Et donc, on a lancé ça, 2018 et tout. Moi, je me rappelle, premier client, j'étais connectée sur le site, sur le back-office, et j'attendais les commandes, quoi. Et franchement, pas de commandes. Enfin, pas de commande, genre 5 minutes, une commande, 20 minutes, une deuxième commande. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais attends, je comprends pas, ça devait être incroyable et tout. Bon, maintenant, on fait 20% du chiffre d'affaires de cet outlet en ligne, donc ça cartonne. Mais donc déjà, au début, je m'étais dit, mais merde, comment ça se fait et en fait, on a permis à notre client de devenir une marque, ce qui n'était pas les centres commerciaux et les outlets à l'époque. Donc ça, c'est sur cette industrie. Après, il y a eu le Covid, donc on a eu très peur parce qu'on s'est dit, mais en fait, les centres commerciaux, les outlets, les retail, ils sont tous en train de fermer, donc qu'est-ce qui va se passer pour nous ? Il se trouve qu'on a été appelé par le gouvernement pour les aider sur la redynamisation justement du commerce de proximité. Donc nous, notre idée, c'était de mettre nos produits qui... sont utilisés par des très grosses enseignes et par des très gros acteurs et qui, normalement, coûtent très cher, à destination des petits magasins, en se disant, comme ça, en réalité, on leur permet de faire de la vente en ligne. Et en plus, si le magasin, il y arrive, c'est que, en fait, nos clients, ils vont kiffer parce que, globalement, dans leurs équipes, tout le monde pourra utiliser. Donc là, pareil, franchement, au bureau, le téléphone sonnait, on signait un contrat. Enfin, c'était incroyable, l'euphorie et tout, trop bien. Du coup... ça, c'était top. On a grossi assez vite. Et là, je trouve qu'on a fait des bêtises parce qu'on a travaillé sur des sujets qui... Enfin, on s'est vraiment donné à fond pour nos clients sur des projets qui n'étaient pas forcément rentables pour nous. Et après, crise. Et donc, on s'est dit, on va reprendre projet par projet et on va voir comment on continue à apporter de la valeur en rentabilisant beaucoup plus notre activité. Et j'ai fait quelque chose qui était assez dur à l'époque, c'est-à-dire que j'ai dû dire à des clients, nous, on vous aime très fort, vraiment, on vous adore, on veut bien vous aider, vous faire une transition, vous donner ça, mais en fait, on ne peut plus, quoi. Concrètement, on perd vraiment de l'argent avec vous. Et franchement, je trouve que ce n'est pas facile de savoir soit renoncer à un contrat que tu as envie de signer, soit arrêter des contrats que tu as là. Donc, quand est-ce qu'on s'est dit que Wishiba allait transformer l'industrie ? Moi, j'essaye de me le dire tous les jours le matin en allant travailler. Et après, je trouve que la vie de l'entrepreneur, c'est un peu des hauts, des bas, des doutes. Et comment tu fais aussi pour que ta boîte, elle continue d'évoluer dans un secteur qui a besoin d'évoluer, mais qui connaît quand même une crise qui est compliquée.
Alors, vous le rappeliez, vous êtes aujourd'hui présent dans 8 pays. Quels marchés sont les plus porteurs pour Wishiba et pourquoi ?
Ouais. La France, l'Angleterre et la Norvège. Demandez-moi pourquoi. La France, c'est notre pays, donc c'est plus facile. Tu connais les règles, tu connais les gens, tu sais ce qu'il faut faire, etc. L'Angleterre, c'est un pays, en réalité, qui a connu très fortement, qui s'est vraiment fait frapper par le e-commerce. En fait, la France est en retard de 5-6 ans par rapport à l'Angleterre sur le taux de représentation des achats en ligne sur le total retail. Et donc, en fait, pour les Anglais, c'était assez logique le fait qu'il fallait faire du digital. Il n'y avait aucune question. Et après, le faire de façon rentable, ça a commencé à être un sujet, notamment quand la Fed a augmenté les taux. Quand tu as commencé à avoir une crise, bah, tout de suite, nous, à contrario, on a signé plus de gros projets emblématiques parce que là où avant, c'était hyper cool de passer avec que les acteurs super, super, super chers parce que c'était rassurant de travailler avec quelqu'un de vraiment le leader du marché. Bah, en fait, les directeurs e-commerce, les directeurs marketing, ils ont commencé à se poser la question de mais en fait, qu'est-ce que je veux créer? De quoi j'ai vraiment besoin? Est-ce que je suis vraiment obligée de dépenser 2 millions d'euros pour créer la solution que j'ai envie de développer? C'était pas mal sur notre développement, ça aussi.
Wishibam est l'une des premières entreprises à avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Pourquoi ce choix et quels sont vos engagements concrets?
Alors, entreprise à mission, en réalité, quand j'ai monté la boîte, je me suis prise pour Jeff Bezos et j'ai écrit un peu le why, c'est-à-dire c'est quoi notre raison d'être, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on va le faire et c'est quoi notre raison d'être en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, etc. Et donc, j'ai comme ça un bouclette que je mets à jour. Mais en fait, je ne l'ai pas vraiment fait. Parfois, je revois des tournures de phrases. Mais enfin, je veux dire, franchement, depuis 2018, je trouve que je ne l'ai pas fait vraiment changer. On est vraiment resté sur cette ligne et sur ces bases. Et donc, quand il y a eu ce sujet d'entreprise à mission, ça me semblait évident qu'on allait inscrire notre why dans notre mission d'entreprise. Et du coup, le fait d'être une entreprise à mission, ça oblige à mettre en place des commissions, à se reposer des questions, à voir comment l'entreprise répond au sujet de... notre raison d'être, c'était vraiment d'assurer la diversité du commerce, donc comment on le faisait avec notre produit, comment on adressait différents marchés. Donc, pourquoi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a mis à disposition notre solution pour les commerçants de proximité. C'est quoi notre rôle en tant qu'entreprise? Comment on fait pour diminuer l'empreinte carbone du e-commerce et même de la boîte et tout ça?
Alors, pour vous interroger également aujourd'hui, Damien Potvin.
Charlotte.
J'étais longue, pardon.
C'est pas grave.
Il n'a plus de questions.
Non, mais j'en ai plein. Mais ce que je comprends, c'est que vous êtes en gros une grosse boîte de geeks, hein, puisque vous avez dû gérer la data dans tous les sens, faire l'interopérabilité, parce que je connais ça, c'est un enfer. Ça ne marche toujours pas.
Ouais,
tout le monde promet les merveilles,
cool.
Mais pas du tout. Non, mais ce n'est pas grave être geek. Hein. Nous, on est comptables, on est contents aussi, hein, tout va bien. Mais à travers ça, vous avez créé un outil rien qu'à vous, nécessitant des gros investissements, j'imagine, du CIR, du CI éventuellement, ou comment vous avez fait, ou vous êtes toujours en train de faire un produit d'orfèvre en fonction de l'organisation des clients que vous rencontrez.
Ouais, honnêtement, on améliore vraiment notre produit en fonction des besoins clients qu'on identifie. Parfois, on le fait grandir aussi avec nos clients. C'est une plateforme SaaS, donc ce qui est bien, c'est que dès qu'on développe quelque chose sur la plateforme, tout le monde y a accès. Donc, en fait, plus ça va et plus notre produit grandit. Ce sujet d'interopérabilité et justement comment je vais récupérer les flux produits, les stocks, etc. Franchement, j'ai vraiment geeké. C'est-à-dire que la façon dont on a développé ce système un peu en mode marketplace, elle n'existait vraiment pas du tout sur le marché. D'ailleurs, j'ai changé deux fois de CTO qui m'expliquait que j'étais une grande tarée, que ce n'était pas du tout la norme marché et que... ils ne voyaient pas pourquoi il fallait faire un truc aussi compliqué techniquement pour que ce soit simple pour le client. Et en fait, à un moment, je me suis énervée et je lui ai dit, mais en fait, c'est simple, regarde. Là, je vais te prendre 50 flux différents, de 50 enseignes différentes. Je vais te les retraiter sur un Excel. Je vais te faire des beaux VBA et on va regarder quels sont les patterns. Et donc, le mec m'a dit, ouais, vas-y, fais-le. Et en fait, je l'ai fait. Et donc, à la fin, je lui ai dit, en fait, c'est moi qui ai écrit les specs techniques de la solution. De la partie, en fait, de la partie, en tous les cas, intégration, compréhension, enrichissement du flux produit, qui était vraiment un gros pain point à la base de notre... Enfin, dans ce qu'on voulait faire, en tous les cas. Quand on recrute des gens, on les fait toujours aller sur le terrain, on les fait aller parfois chez nos clients quand nos clients sont OK. Parfois, quand on travaille sur la partie OMS, les chefs de produits, les product owners, chefs de produits, on les envoie. Parfois, ils m'énervent un peu, donc je leur dis OK, va dans un entrepôt, va dans un magasin, va traiter des commandes pendant une journée. Donc, ils font un peu la gueule et en fait, après, ils reviennent.
Ils comprennent ce qui se passe.
Ils ont compris plein de trucs, évidemment. Et c'est vachement bien.
Et pour vous, problème d'API ou l'intelligence artificielle va résoudre un petit peu ces derniers problèmes? Parce que souvent, il y a des interconnexions entre logiciels qui existent. Puis après, suite à un update, ça n'existe plus. Il faut redévelopper une API ou quoi que ce soit.
Alors nous, justement, donc, on a des API où on s'intègre avec des API. Après, on a plutôt une logique qui est de dire, en fait... D'abord, on comprend comment ça fonctionne chez notre interlocuteur, donc chez l'enseigne qu'on va vouloir intégrer, par exemple. Et on lui dit, OK, bah, du coup, pour s'intégrer chez nous, on va récupérer ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et après, on a des algos d'IA, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, je considère que c'est pas poussé comme les dernières inno sur lesquelles, là, on est en train de travailler... mais qui permet d'aller matcher les différents flux, cleaner les flux et les enrichir pour que la donnée ressorte bien pour nos clients et qu'il y ait le moins d'humains possible. Parce que le traitement des produits, des fiches produits, ça peut être très chronophage.
Évidemment, non, ça prend
et énormément. L'IA, aujourd'hui, nous, on l'utilise plutôt sur d'autres sujets. Donc, typiquement, un des sujets qui nous tient à cœur, c'est comment on fait pour qu'il y ait les bons stocks dans les magasins et pour comprendre en réalité les performances actuelles et futures des différents magasins. Et donc, du coup, sur ces sujets-là, typiquement, on utilise l'IA fédérée pour aller récupérer les informations endogène à l'enseigne, donc en gros, son chiffre d'affaires par point de vente, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc., en temps réel, puisqu'on s'intègre avec les stocks. Et après, on lui permet on intègre aussi des informations exogènes, donc il pleut, Trump a fait une déclaration, la Fed a augmenté ses taux, il y a un concert de Beyoncé, je ne sais pas quoi. Et on lui permet d'estimer quel va être son chiffre d'affaires sur des dates données, enfin sur les dates que lui définit. Et s'il n'est pas on track, de générer des recommandations pour améliorer ce chiffre d'affaires. Donc, les recommandations, ça peut être des trucs basiques, genre, attention, tes best-sellers, le stock, il tourne trop vite, tu vas bientôt être en rupture, il faudrait recommander. Ça peut être, regarde, là, il fait hyper froid, tu devrais arrêter de mettre tes robes dans ta vitrine. Ça peut être, là, il faut lancer une promo sur ça, etc.
D'accord, ah, c'est
intéressant. Ça, je trouve ça cool.
Donc, en gros, vous permettez à n'importe quel petit commerçant de se lancer en ligne et de pouvoir devenir une majeure, un de ces quatre. Mais en tout cas, vous avez un produit clé en main pour n'importe quel entrepreneur qui a du mal à se mettre sur Internet. Parce qu'on parle tous de dropshipping, c'est génial. D'un coup, je fais trois clics et je vends pas des choses. Mais finalement, vous, c'est une solution un peu clé en main.
Alors, on a deux produits. On a notre produit, donc la plateforme Ushibam, qui est plutôt... à destination des grosses enseignes, des Sandco, des outlets, etc., parce qu'elle est beaucoup plus complète. Et après, effectivement, pour eux, on a développé une solution qui va sortir là. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis quand on en a parlé. On est encore en train de se décider sur le nom. On a un grand débat interne. Mais globalement, ça permet de créer des fiches produits grâce à l'IA. Donc, en gros, n'importe qui peut... prendre en photo un produit. La photo, elle va être globalement assez clean, avec des fonds jolis, etc. La description, derrière, en fait, ça va scanner ton produit. La description, elle va se faire en fonction de ce qu'il voit. Après, derrière, tu peux rajouter des caractéristiques, mais au moins, le travail, il est déjà fait. Ça va te mapper dans les bons endroits, quoi, pour que ce soit bien référencé sur tous les moteurs de recherche, notamment... Les moteurs de recherche, les marketplaces, Google, Facebook, Meta, etc. Et derrière, tu peux le diffuser. Et à ça, on ajoute un système qui te permet de gérer tes avis, gérer tes ouvertures de boutiques, etc. On trouvait que ça répondait plus aux besoins des commerçants de proximité.
D'accord. Notamment pour le second main aujourd'hui, ça peut les révolutionner.
Exactement. Hein. C'est super sur la... Mais je vous ai dit ça ou vous...
Non,
exactement. Bah, sur la seconde main, c'est super parce qu'effectivement, la seconde main, tu as une pièce par produit, a priori. Mm. Et donc, du coup, ça coûte très, très cher de faire des belles images. Et si tu as des images qui ne sont pas belles et des descriptions qui ne sont pas bien, et bah, tu ne les vends pas.
Ça prend surtout un temps de malade. Comment vous décryptez les nouvelles tendances sur Internet, vous, de votre côté? Parce que quand vous gérez plein de marketplaces et plein de créneaux, enfin de secteurs différents, vous voyez une tendance qui se dégage aujourd'hui?
Bah, moi, je vois quand même les évolutions de chiffre d'affaires de mes clients. J'ai des clients de toute taille, donc c'est assez intéressant de voir comment ça évolue. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je peux te dire maintenant qui sont ceux qui iront moins bien dans 5 ans, que je ne dirai pas, évidemment. Dans les enseignes qu'on intègre parfois sur nos marketplaces. Non, je ne sais pas. Moi, c'est ma passion, le retail. Donc, globalement, ça m'intéresse, quoi. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'autres sujets de discussion à part ça.
Ah, mais en tout cas, bravo. Merci.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de Wishiba, mais de tous les sujets que ça englobe. Merci beaucoup donc à vous, Charlotte Journebord. Merci également à vous, Guillaume et Damien. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Rendez-vous jeudi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. À bientôt. Merci.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.